l'orchestre, parut un beau jeune homme, trop gras et d'une blancheur de cire. Il avait de longs cheveux noirs disposés à la manière du Christ, un gilet de velours azur à grande palme d'or, l'air orgueilleux comme un paon, bête comme un dindon, et quand il eut salué le public, il entama une chansonnette. C'était un villageois narrant lui-même son voyage dans la capitale. L'artiste parlait bas-normand, faisait l'homme sous, le refrain « Ah, j'ai tiré, dans ce gueusard de Paris » soulevait des trépignements d'enthousiasme. Delmas, chanteur expressif, était trop malin pour le laisser refroidir. On lui passa vivement une guitare, et il gémit une romance intitulée « Le frère de l'Albanaise ». Les paroles rappelèrent à Frédéric celles que chantait l'homme en haillons entre les tambours du bateau. Ses yeux s'attachaient involontairement sur le bas de la robe étalée devant lui. Après chaque couplet, il y avait une longue pause, et le souffle du vent dans les arbres ressemblait au bruit des ondes. Mademoiselle Batnaz, en écartant d'une main les branches d'un troène qui lui masquait la vue de l'estrade, contemplait le chanteur fixement, les narines ouvertes, les cils rapprochés et comme perdus dans une joie sérieuse. « Très bien, » dit Arnaud, « je comprends pourquoi vous êtes ce soir à l'Alhambra. Delmas vous plaît, ma chère. » Elle ne voulait rien avouer. « Ah, quelle pudeur !» Et montrant Frédéric, « Est-ce à cause de lui ? Vous auriez tort. Pas de garçon plus discret. » Les autres, qui cherchaient leur ami, entrèrent dans la salle de verdure. Hussonnet les présenta. Arnoux fit une distribution de cigares et régala de sorbet la compagnie. Mademoiselle Batnaz avait rougi en apercevant Dussardier. Elle se leva bientôt et lui tendant la main. « Vous ne me remettez pas, monsieur Auguste ?»« Comment la connaissez-vous ? » demanda Frédéric. « Nous avons été dans la même maison, » reprit-il. Sisy le tirait par la manche, ils sortirent. Et à peine disparus, Mademoiselle Batnaz commença l'éloge de son caractère. Elle ajouta même qu'il avait le génie du cœur. Puis on causa de Delmas, qui pourrait, comme mime, avoir des succès au théâtre. Et il s'ensuivit une discussion où l'on mêla Shakespeare, la censure, le style, le peuple, les recettes de la Porte Saint-Martin, Alexandre Dumas, Victor Hugo et Dumersan. Arnoux avait connu plusieurs actrices célèbres. Les jeunes gens se penchaient pour l'écouter, mais ses paroles étaient couvertes par le tapage de la musique. Et sitôt le quadrille ou la polka terminée, tous s'abattaient sur les tables, appelaient le garçon, riaient. Les bouteilles de bière et de limonade gazeuse détonnaient dans les feuillages. Des femmes criaient comme des poules. Quelquefois, deux messieurs voulaient se battre. Un voleur fut arrêté. Au galop, les danseurs envahirent les allées. Haletant, souriant et la face rouge, ils défilaient dans un tourbillon qui soulevait les robes avec les basques des habits. Les trombones rugissaient plus fort. Le rythme s'accélérait. Derrière le cloître au Moyen-Âge, on entendit des crépitations, des pétards éclatèrent. Des soleils se mirent à tourner. La lueur des feux de Bengale, couleur d'émeraude, éclaira pendant une minute tout le jardin. Et à la dernière fusée, la multitude exhala un grand soupir. Elle s'écoula lentement. Un nuage de poudre à canon flottait dans l'air. Frédéric et Delaurier marchaient au milieu de la foule pas à pas, quand un spectacle les arrêta. Martinon se faisait rendre de la monnaie au dépôt des parapluies. Et il accompagnait une femme d'une cinquantaine d'années, laide, magnifiquement vêtue et d'un rang social problématique. « Ce gaillard-là, dit Delaurier, est moins simple qu'on ne suppose. Mais où est donc Sisy ?» Dussardier leur montra l'estaminet, où ils aperçurent le fils d'Épreux, devant un bol de ponche en compagnie d'un chapeau rose. Hussonnet, qui s'était absenté depuis 5 minutes, reparut au même moment. Une jeune fille s'appuyait sur son bras en l'appelant tout haut « mon petit chat ». « Mais non !» lui disait-il. « Non, pas en public. Appelle-moi vicomte plutôt. Ça vous donne un genre cavalier. Louis XIII et Bottemolle qui me plaît. » « Oui, mais bon, une ancienne. N'est-ce pas qu'elle est gentille ?» Il lui prenait le menton. « Salut ces messieurs. Ce sont tous des fils de pairs de France. Je les fréquente pour qu'ils me nomment ambassadeur. » « Comme vous êtes fou !» soupira Mademoiselle Batnaz. Elle pria Dussardier de la reconduire jusqu'à sa porte. Arnoux les regarda s'éloigner, puis se tournant vers Frédéric. « Vous plaira-t-elle, la Batnaz ? Au reste, vous n'êtes pas franc là-dessus. Je crois que vous cachez vos amours. » Frédéric, devenu blême, jura qu'il ne cachait rien. « C'est qu'on ne vous connaît pas de maîtresse ? » reprit Arnoux. Frédéric eut envie de citer un nom au hasard, mais l'histoire pouvait lui être racontée. Il répondit qu'effectivement il n'avait pas de maîtresse. Le marchand l'en blâma. « Ce soir, l'occasion était bonne. Pourquoi n'avez-vous pas fait comme les autres qui s'en vont tous avec une femme ?»« Eh bien, et vous ?» dit Frédéric, impatienté d'une telle persistance. « Ah, moi, mon petit, c'est différent. Je m'en retourne auprès de la mienne. » Il appela un cabriolet et disparut. Les deux amis s'en allèrent à pied. Un vent d'est soufflait. Ils ne parlaient ni l'un ni l'autre. Des lauriers regrettaient de n'avoir pas brillé devant le directeur d'un journal. Et Frédéric s'enfonçait dans sa tristesse. Enfin, il dit que le bastringue lui avait paru stupide. « À qui la faute? Si tu ne nous avais pas lâchés pour ton Arnoux ?»« Bah, tout ce que j'aurais pu faire eût été complètement inutile. » Mais Leclerc avait des théories. Il suffisait pour obtenir les choses de les désirer fortement. « Cependant, toi-même, tout à l'heure... »« Je m'en moquais bien, » fit Deslauriers, arrêtant net l'allusion. Est-ce que je vais m'empêtrer de femmes ?» Et il déclama contre leur mièvrerie, leur sottise, bref, elle lui déplaisait. « Ne pose donc pas, » dit Frédéric. Deslauriers se tut, puis, tout à coup, « Veux-tu parier 100 francs que je fais la première qui passe ?»« Oui, accepté. » La première qui passait était une mendiante hideuse. Et ils désespéraient du hasard, lorsqu'au milieu de la rue de Rivoli, ils aperçurent une grande fille portant à la main un petit carton. Deslauriers l'accosta sous les arcades. Elle inclina brusquement du côté des Tuileries et elle prit bientôt par la place du carrousel. Elle jetait des regards de droite et de gauche. Elle courut après un fiacre. Deslauriers la rattrapa. Il marchait près d'elle, en lui parlant avec des gestes expressifs. Enfin, elle accepta son bras et ils continuèrent le long des quais. Puis, à la hauteur du Châtelet, pendant 20 minutes au moins, ils se promenèrent sur le trottoir, comme deux marins faisant leur quart. Mais tout à coup, ils traversèrent le pont au change, le marché aux fleurs, le quai Napoléon. Frédéric entra derrière eux. Deslauriers lui fit comprendre qu'il les gênerait, et n'avait qu'à suivre son exemple. « Combien as-tu encore ?»« 2 pièces de 100 sous. »« C'est assez. Bonsoir. » Frédéric fut saisi par l'étonnement que l'on éprouve à voir une farce réussir. « Il se moque de moi, » pensa-t-il. « Si je remontais. » Deslauriers croirait peut-être qu'il lui enviait cet amour. Comme si je n'en avais pas un, et 100 fois plus rare, plus noble, plus fort. Une espèce de colère le poussait. Il arriva devant la porte de Madame Arnoux. Aucune des fenêtres extérieures ne dépendait de son logement. Cependant, il restait les yeux collés sur la façade,